franceinter.fr.
CO2 Mon Amour, avec Initiative, solution de financement des projets associatifs, sportifs et scolaires, à découvrir sur initiative.fr.
Ça se reconnaît un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
L'hydrogène aujourd'hui ne sert à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans CO2 Mon Amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. Une émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite avec Cédric Lalanne et Ronan Maille à la technique. Et assisté de Stéphane Combe, c'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Avant de passer aux États-Unis, une petite humeur, on va dire, assez française, car la chasse aux sites naturels encore vierges est ouverte, ça on le sait depuis belle lurette. Mais cela n'empêche pas le braconnage. Alors la scène se passe en Isère, dans le massif du Beldon, au Collet d'Alvar, le bien nommé. Et d'ailleurs, c'est un lieu qui est extrêmement joli, car un super Collet d'Alvar vient d'être posé impunément dans la belle vallée rebaptisée Domaine Skiable. Et c'est Saint-Hugon, si vous voulez, c'est le patron local des empêcheurs de ratiboiser en rond, qui n'est pas content du tout. Avant même les attendus d'un recours contentieux suspensif des travaux déposé auprès du tribunal de Grenoble par la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, et selon, faut le dire, la classique technique du fait accompli, eh bien les bulldozers ont déjà décapé une partie du site d'implantation de la belle future remontée mécanique. Alors nous dirons les promoteurs obligatoires pour l'avenir de la station, si on veut que nos enfants vivent au pays, etc. etc. Alors c'est vrai qu'on en manquait de remontée mécanique dans le secteur des Alpes. On ne sait s'il s'agit d'ailleurs d'un effet pervers de la crise, mais tout le monde cherche à fuir, oui, en vélo ou bien à ski, c'est comme ça. Fuite en avant un peu suicidaire, les stations de la Chapelle du Bar et d'Alvar donc, sont prises au collet d'emprunt et diversifient leur activité, regroupent leurs domaines de loisirs, reliant monts et vallées de câbles d'acier. Été comme hiver, il faut que la montagne soit pleine. Il n'y a pas que dans ce lieu-là d'ailleurs. Dommage collatéral dans ce dernier secteur, il restait des zones humides. Et les zones humides sont assez rares en montagne. Étude d'impact assez bâclée mais validée. Il restera donc un décor défiguré, recalibré aux normes. Et comme la neige se fait rare, bien on en fera de la fosse, c'est pas grave, ça, les vrais sportifs n'y voient que du feu. Et comme il faut de l'eau pour les canons à neige, bien on fera sûrement des lacs de retenue avec des bâches plastiques et tout le monde sera content. Alors, les services de l'État viennent de faire stopper les travaux pour cause quand même justement de zones humides sur le projet donc de piste. Il faut quand même dire que les porteurs de ce projet, n'ayant pas exactement fait les démarches nécessaires par rapport à la loi sur l'eau, sont un petit peu contraints. Ça va peut-être permettre de gagner du temps parce que les travaux ont peu de risques de reprendre avant la fin de reprendre avant la neige, et avec un peu de chance, cette affaire sera jugée avant la fonte au printemps. L'année de la biodiversité, vous vous souvenez, c'était l'an passé, donc c'est fini. Allez, skiez petit bolide. Une émission qui va être consacrée en grande partie aux États-Unis avant de rejoindre Jean-Marie Pelt. Oui, nous l'aurons tout à l'heure en ligne. Nous ferons un petit tour aussi du côté de la Chine avec Hélène Krievi-Gesner. Bonjour Hélène.
Bonjour Denis.
Je suis ravi de vous retrouver parce que d'abord vous intervenez régulièrement dans CO2 Mon Amour, mais vous êtes journaliste, vous habitez maintenant aux États-Unis, c'était au Texas, aujourd'hui en Caroline du Nord. Vous écrivez dans Science et Avenir, vous écrivez dans Rue 89 et vous venez de sortir American Écolo, les Américains et l'environnement, chronique du meilleur et du pire chez Delachaux et Niestlé. Donc, quel bon vent écologique américain vous amène, on va dire?
La publication du livre, il est sorti en librairie
voilà,
avant-hier. Ouais. Et c'est quand même un petit peu agréable d'être là quand son bébé sort, oui, sur lequel on a travaillé longtemps. En plus, ça permet de rencontrer des gens comme vous qui vont en parler.
Oui, voilà. Mais sinon, si on prend une petite température très rapide, on va dire aujourd'hui, écologie et États-Unis, qu'est-ce que ce serait?
C'est grave. Mm-hmm. C'est grave, docteur. Parce que on est en pleine campagne, en pleine préliminaire de la campagne présidentielle. Et il ne se passe pas grand-chose du côté des partisans d'Obama. Ça, ce sera pour l'année prochaine, quand ce sera la grande bataille entre candidats républicains et démocrates, gauche-droite. En ce moment, c'est la bataille entre les candidats de droite. Ils veulent tous être investis. Et depuis, ça c'est des choses que je raconte pas mal dans le livre, mais la droite américaine, la droite extrémiste américaine, s'est pris d'une passion dévorante pour les sujets anti-environnementaux. Mm-hmm. C'est-à-dire, à une époque, c'était surtout anti-darwinisme, la religion, fait que la Bible, non, c'est pas les dinosaures, c'est pas l'évolution des espèces.
Ah bah, le réchauffement climatique n'est pas dans les Écritures saintes, a priori. Donc,
certes, mais n'empêche que maintenant, on voit le réchauffement climatique devenu quelque chose d'extrêmement passionnel dans la droite américaine, dans la droite religieuse, et ils prennent ça comme quelque chose, apparemment c'est une atteinte à la religion, c'est une atteinte à la création de Dieu, de dire qu'il faut ménager les ressources, parce que c'est devenu quelque chose d'extrêmement polémique, et dans la campagne présidentielle, ça va peser énormément, ça aussi.
Alors, donc, on va revenir vraiment sur aussi les fondements de l'environnement aux États-Unis, donc avec vous. On a beaucoup de choses à se raconter, donc c'est vraiment le thème central de cette émission. Dans quelques instants, on rejoint Jean-Marie Pelt, et donc on fera un petit tour en Chine. J'espère que vous allez bien, oui, que vous soyez rugbyman ou non, peu importe. Allez, c'est parti.
Ceux de mon amour, c'est cette petite émission qui respire sur France Inter.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Choisi par Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur. C'était les Rolling Stones. Ça fait plaisir à Hélène Criée. Ça vous fait plaisir, c'est le principal. Et ça fait plaisir aussi à Jean-Marie Pelt, qui est un fan des Rolling Stones. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Allez-vous bien bonjour. En Lorraine?
Très bien, bonjour Hélène.
Voilà, et oui, parce que vous connaissez.
C'est très beau.
Merci.
Bon, bah c'est parfait. C'est
oui,
parfait.
On se connaît depuis longtemps.
Ah oui, je sais bien. Bon, vous êtes pas loin de votre jardin lorrain, mais on va parler d'une actualité alors très intéressante parce que ça rejoint la maladie d'Alzheimer. Et le pharmacien que vous êtes va nous dire quelques mots sur ce que l'on est en train de découvrir. Enfin, découvrir avec évidemment quand même toujours trois petits points de suspension parce qu'il n'y a pas de vérité révélée. Mais où en est-on ?
Bah écoutez, on a une alerte en ce qui concerne les benzodiazépines qui sont une famille de médicaments anxiolytiques et sédatifs. Alors tout le monde les connaît, bien sûr, le Lexomil, le Valium, le Tranxène, le Temesta, le Seresta, le Lysampia, etc., etc. Alors, nous avons une alerte qui nous vient d'un chercheur, Bernard Ego, qui est pharmacologue et épidémiologiste à l'INSERM à Bordeaux, et qui semblerait faire le lien entre la surconsommation de ces médicaments-là et la montée en puissance de la maladie d'Alzheimer. Si ça se confirmait, ça serait pire que le Mediator. Ça serait vraiment un accident thérapeutique en santé publique tout à fait dramatique. Alors, le problème, il tient au fait que ces médicaments, il est logique de les prescrire lorsqu'une personne est en dépression après avoir subi un accident familial, professionnel, etc. Mais malheureusement, dans l'immense majorité des cas, on les consomme ensuite encore très longtemps, donc on en fait une consommation qu'on pourrait qualifier de chronique, et c'est là que le bât blesse, parce qu'on sait que ces médicaments, sont faits depuis très longtemps, ont un effet secondaire sur la mémoire.
Et la France est pratiquement champion du monde, je crois, de la consommation d'anxiolytiques par habitant.
Champion du monde de la consommation, et il semblerait que nous avons aussi plutôt plus d'Alzheimer que des pays homologues.
Alors, vous avez travaillé depuis très longtemps sur les plantes médicinales, hein, c'est vraiment un des cœurs de votre action. Quel rapport on peut faire entre, d'un côté, donc, ces molécules, ces familles de molécules, et les plantes médicinales?
Mais nous avons travaillé pendant très longtemps à l'Institut européen d'écologie à Metz sur plusieurs plantes active sur le système nerveux central. Alors l'escoldia, qui est une très remarquable plante de la famille du pavot, mais sans en avoir la même composition, et de la passiflore en particulier aussi, qui sont des anxiolytiques. On a vérifié leurs propriétés anxiolytiques sur des animaux de laboratoire. Nous avons travaillé sur la valériane, qui est une plante très connue, un sédatif très connu, et la mélisse, où nous avons également montré, toujours au laboratoire, les effets sédatifs. Et sur ces quatre plantes, nous avons montré par-dessus le marché que toutes les quatre sont des inducteurs du sommeil. Alors, malheureusement, par ce que je considère comme une erreur gravissime en matière de santé publique en France, toutes ces plantes et tous les médicaments qui les contiennent ont été récemment déremboursés.
Question, pourquoi ?
Alors, question, pourquoi ? Oui,
très simple, hein, vraiment, faut... oui.
Déremboursés sous le prétexte que le service médical qu'elles rendent est insuffisant.
Donc ça, c'est l'avis du ministère de la Santé qui s'appuie sur, j'imagine, quand même, des documents de chercheurs.
Tout à fait. Oui. Alors, en fait, nous sommes dans une culture de la molécule. Une culture de la molécule, donc on préfère avoir une molécule simple plutôt qu'une plante pour une autre raison, c'est que la molécule, les laboratoires peuvent la breveter. Et les plantes ne peuvent pas être brevetées. Donc, lorsqu'on a une molécule brevetée, on a une part de marché qui est sûre et qu'on ne va pas vous contester pendant toute la durée de validité du brevet. Pour une deuxième raison, c'est qu'on considère que les plantes sont des complexes moléculaires très compliqués. Alors, dans ma profession, quand on parle des plantes médicinales, on dit les simples. Mais Bachelard avait dit que les simples étaient en réalité très complexes. Ces plantes, et c'est ce qu'on leur reproche, elles agissent en douceur, tandis que les molécules tapent fort. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a quelques années, au début de l'émergence de l'écologie, on parlait beaucoup de thérapeutiques douces.
C'est exact, oui.
On disait aussi les technologies douces à l'époque.
Et on a parlé après de frappe chirurgicale, mais ça c'était autre chose, c'était
tout
pour les guerres.
Oui. Et en réalité, ces plantes ont sans doute pas les effets secondaires que nous avons évoqués en ce qui concerne les benzodiazépines sur la mémoire. Alors, nous voudrions, c'est clair, et nous allons agir en ce sens, que l'on cesse cet ostracisme à l'égard des plantes médicinales et à l'égard, plus généralement, de la phytothérapie, parce que nous avons montré encore autre chose. Pendant les 30 ans que nous avons travaillé sur ces questions à l'Institut d'écologie à Metz, nous avons montré que des plantes dans lesquelles on ne trouve pas une molécule à qui on peut attribuer l'activité constatée de la plante, contient souvent un panel de molécules dont chaque molécule par elle-même est pratiquement inefficace, sans effet thérapeutique, mais dans la plante où toutes ces molécules sont ensemble, on a l'émergence d'une propriété que nous avons constatée, en particulier pour ces plantes-là, sur le système nerveux.
Et ce sont de nouvelles pistes, ça, aujourd'hui. Donc, c'est
une nouvelle piste.
C'est l'étude des mélanges ou des cocktails.
Tout à fait. C'est une nouvelle piste. Et le tout est plus que la somme des parties. C'était l'approche pascalienne d'autrefois. Alors, nous proposons de revenir à ces plantes dont nous pouvons affirmer que même si elles ne contiennent pas un principe actif, elles sont actives par la somme de tous les principes qu'elles contiennent. Nous l'avons démontré sur des travaux très longs, d'ailleurs, sur les feuilles d'artichaut qui sont un excellent médicament du foie. Et puis surtout, on s'aperçoit que ce qui est vrai pour l'émergence de propriétés nouvelles thérapeutiques favorables pour des plantes médicinales, eh bien c'est malheureusement en vrai aussi pour l'émergence de toxicité. Et à propos des pesticides, qui est un sujet évidemment très préoccupant pour nous tous, eh bien on a maintenant démontré par des expérimentations qu'un mélange de pesticides est souvent plus toxique qu'un pesticide isolé sur lequel on a testé la toxicité quand on l'utilise seul. Et voilà la dernière étude qui m'est tombée sous la main. On mélange trois pesticides. On a chacun des trois est étudié séparément pour voir leur impact sur le système reproducteur. Parce qu'on sait que la plupart des pesticides ont un impact désastreux sur le système reproducteur masculin. On donne le pesticide à l'état pur, à une dose fixée, à des souris, et on le donne aussi en mélange à la même dose, à l'autre lot de souris. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'une malformation du pénis des souris et des humains aussi, qu'on appelle hypospadia, c'est un truc assez curieux. L'extrémité de l'urtère, au lieu d'aboutir à l'extrémité du gland...
On va faire assez vite, oui.
Oui, d'accord. Bien sûr. N'est plus bien placé et l'urtère arrête avant le gland. Donc on fait pipi de travers, si vous voulez.
Oui, je comprends bien, oui.
Aucun des pesticides testés séparément produit cet effet. Et sur les pesticides en mélange, on a cet effet sur 60% des souris testées. Donc vous voyez qu'il y a une nouvelle pharmacologie, une nouvelle toxicologie qui est en train d'apparaître, qui est celle des mélanges. Et c'est un domaine entièrement nouveau pour la biologie.
Eh bien, un grand merci Jean-Marie donc, pour cette information. Et puis, on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Si vous souhaitez rester avec nous, il n'y a aucun problème. Hein.
Oui.
Je sais que vous allez, de toute façon, dans votre jardin, retirer vos mauvaises herbes donc, à la main et sans produits chimiques, ce qui vous confère à la fois cette merveilleuse souplesse pour le dos ainsi que votre souplesse d'esprit. Donc, si vous le souhaitez, vous restez avec nous tranquillement puisque nous sommes avec Hélène Krievi-Yesner, donc journaliste avec cette ouvrage American Écolo. Et Hélène, donc là, on repart avec vous aux États-Unis. Ça date de quand, on va dire, les prémices de l'écologie aux États-Unis?
Écoutez, ils étaient précurseurs, les Américains, puisque c'est au début du 19e siècle, vers 1832, si ma mémoire est bonne, c'est dans le livre, que les premiers parcs nationaux ont vu le jour.
Tu en Arkansas, c'est Hot Spring aussi.
Voilà, en Californie. Oui. Et ça, c'était sous l'influence... D'un écologiste particulier, enfin des gens qui avaient réussi à convaincre les autorités fédérales, le président des États-Unis de faire ça. Donc c'était extraordinaire d'avoir fait ça aux États-Unis. Et les Américains en sont fiers, à juste titre. Et on pourrait se dire que la relation des Américains à l'environnement aurait peut-être continué sur, oui. Sur cette lancée. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Mais c'est quand même grâce au livre extrêmement célèbre maintenant, d'une biologiste, en 1962, Rachel Carlson, The Silent Spring, le printemps silencieux, qu'on a découvert exactement ce dont parle Jean-Marie Pelt il y a deux minutes, l'effet dévastateur des pesticides sur la nature, sur les êtres humains, surtout sur les animaux.
Et avec la complicité des gouvernements aussi.
Gouvernements, industrie, ouais. Etc. Et c'est ça qui a. C'est ce livre et c'est ce mouvement qui a généré le mouvement écologiste des années 70, d'abord aux États-Unis, puis ensuite en Europe.
Alors, vous avez vous citez aussi Brice Lalonde qui dit assez justement que la protection de l'environnement est née au 19e siècle, à l'ouest des Rocheuses, en même temps que les habitants puritains de l'est du pays entendaient préserver l'œuvre de Dieu. Les lois naturalistes, les rapports d'impact et même les chances sciences modernes de l'environnement, bah, tout ça, c'est nous aux États-Unis, faut pas l'oublier. Voilà.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a toujours des gens qui sont extrêmement protecteurs, qui font très, très attention à ça, mais c'est compensé par une société, malheureusement, qui sert un peu de rouleau compresseur sur tout ça.
Alors, donc, on a cité Rachel Carson, on pouvait citer aussi John Muir, qui est vraiment un des fondateurs intellectuels aussi de cet environnement. Parlez-nous maintenant, parce que là, vous le détaillez très, très bien. On va dire des racines de l'abondance et de l'addiction au pétrole des Américains.
En fait, ce qui s'est passé, moi, je me suis rendu compte en arrivant là-bas que nous, les Européens, les Français, on n'avait pas du tout le même rapport charnel, si on peut dire, de tous les jours à ce qui nous entourait, à l'électricité, à l'essence, même à la nourriture. Je me suis dit, mais d'où ça vient? Et en fait, je me suis rendu compte, en comparant mon enfance, moi, je suis née dans les années, milieu des années 50.
Au Mans,
on parlait de la Sarthe tout à l'heure avec Fillon. Ouais. Et j'ai comparé mon enfance, et celle de mes frères, à celle de mon mari, qui a le même âge que moi, qui lui est né dans le Nebraska. Ses parents étaient de la petite classe moyenne, comme la mienne, petite. Et à la même époque, ses parents avaient une grosse voiture. Les miens avaient une toute petite deux chevaux microscopique. Moi, j'ai été élevée dans l'idée d'éteindre la lumière, mais c'était maladif. Il fallait sortir de la pièce et éteindre la lumière et faire attention à ce qu'on dépensait en électricité, ce qu'on dépensait en eau. Il y avait une culture, et pas du tout aux États-Unis, pas du tout, du tout. Je me suis dit, mais ça vient de la guerre, en fait. Mais naturellement, mes parents, ils ont été privés de tout pendant la guerre. Les siens, non. Parce que nous, on n'était pas nés. Mais c'est vrai. Et ça a duré longtemps, ça a duré jusqu'au début des années 60, où les Européens avaient cette culture de faire attention à tout. Parce que tout était rare. Les villes, les villes européennes, les villes françaises, beaucoup avaient été complètement détruites, il n'y avait plus rien. Même à manger, d'ailleurs, c'était dur. Et aux États-Unis, je ne dis pas que les États-Unis n'ont pas été impactés par la guerre. Des milliers de jeunes Américains sont morts et sont partis. Mais aux États-Unis, les usines n'ont jamais arrêté de tourner. Les magasins n'ont jamais cessé d'être remplis, les gens n'ont jamais cessé de consommer, on leur disait de faire attention parce qu'il y avait un effort de guerre, mais tout tournait et surtout les usines tournaient. Ça a créé la richesse aux États-Unis, la guerre, alors qu'en Europe, ça a créé une immense pauvreté qui a pu être remise, les choses ont pu s'arranger grâce à l'aide des Américains. Mais pour le coup, les Américains, on leur demandait de consommer après la guerre et il fallait qu'ils y aillent et c'est devenu un mode de vie.
Même les plus modestes, en fait, connaissaient donc un mode de vie qui était relativement confortable.
C'était ça. Comparé aux gens qui étaient même un peu plus riches en Europe ou en France ou en Allemagne, oui.
Donc ça veut dire que cette société d'abondance, on a cette addiction, remarquez, on l'a aussi chez nous, mais on ne pouvait pas s'en passer. C'est-à-dire que culturellement, ça forge aussi des mentalités.
Ça forge des mentalités, d'autant plus qu'eux, ils avaient du pétrole. Ils avaient du charbon, comme nous, mais nous, progressivement, les mines de charbon ont été fermées les unes après les autres à partir des années 70, 60 même. Et donc, en fait, les Européens n'avaient même plus sur place, sur leur territoire, leur source d'énergie. Les Américains les avaient. Alors, on leur demandait de consommer, ils consommaient d'autant plus volontiers que ça faisait partie de la prospérité du pays. Et par conséquent, tout est devenu différent. L'abondance coule de source aux États-Unis. Mmh. Et le confort coule de source aussi. Donc, quand on leur demande de réduire un peu tout ça parce que ça, c'est dangereux pour la planète, eux, ils veulent bien, mais à condition que ça n'impacte pas leur mode de vie, leur confort. Alors ça, je parle dans les grandes lignes, hein, parce bien entendu, il y a des gens après qui ont développé un peu tout ça et ont essayé de faire prendre conscience de ce qui se passait en vrai.
Alors, on va poursuivre donc ce voyage. On verra aussi quelle est l'addiction donc au pétrole et à la voiture. Comment ça se passe? On va arriver sur les transports ferroviaires, ce qui se passe aujourd'hui, parce que depuis une dizaine d'années, ça a été évidemment encore plus vite. Je vous propose d'écouter qui? Vanessa Paradis. Eh bien, c'est très bien. Pas tout seul, il est avec M. La Seine.
Elle sort de son lit. Sur d'elle, la Seine, la Seine, la Seine. Tellement jolie, elle m'ensorcelle. La Seine, la Seine, la Seine. Extra lucide, la lune est sûre. La Seine, la Seine, la Seine. Tu n'es pas sous, Paris est sous. La Seine, la Seine. Ça, la Seine et moi, je ne sais.
Très agréable, les bords de la Seine, qu'ils soient impressionnistes, qu'ils soient à la source, au plateau de Langres ou bien à Paris. C'est une merveille. Vanessa Paradis et M. Et nous sommes avec Hélène Krier-Villesner pour son ouvrage « American Écolo, les Américains et l'environnement et la culture automobile ». Donc là, ça rigole pas. 2% des réserves de pétrole aux États-Unis, mais 20% de la consommation mondiale de pétrole aujourd'hui. Et cette relation charnelle avec la voiture, avec l'essence et avec le pétrole.
Oui. Et j'ai vécu progressivement, à partir de 2002-2003, l'augmentation du prix de l'essence. Alors maintenant, quand on dit à un Français qu'un gallon, c'est-à-dire presque 4 litres d'essence, vaut 3,69 $, c'est-à-dire, vous imaginez en euros, ça fait vraiment pas lourd, quand vous dites que les Américains trouvent ça cher, il faut mettre ça en perspective. Parce que moi, quand je suis arrivée au Texas en 2000, 4 litres d'essence, c'était 99 centimes. Donc effectivement, de passer à presque 4 $ les 4 litres, ça fait un choc. Mais c'est même un vrai choc pour des tas de gens qui gagnent des clopinettes et pour qui c'est très difficile de continuer à remplir leur réservoir. D'autant
juste
que...
se rappeler que sur les 300 millions d'habitants aujourd'hui, il y en a quand même 100 millions qui sont quand même dans le dur. Et puis 30-40 millions vraiment dans un état de précarité intense.
C'est épouvantable. Ça, c'est la crise économique américaine et c'est brutal, c'est effroyable. Parce qu'il n'y a pas les... comment on appelle ça? Les réseaux... Non, le filet social.
Chômage, je verrai ça, etc.
C'est terrible. Donc là, quand on parle des gens qui, avec les voitures, qui consomment, etc., à la limite, je ne parle même pas, malheureusement, de ces gens-là. Là, c'est les trop, trop pauvres. Quoique, ces gens-là, ils rêvent que d'une chose, hein, c'est de pouvoir redevenir assez riches pour pouvoir faire tout ça. Ce n'est pas devenu des écolos du jour au lendemain parce qu'ils étaient pauvres, hein, bien sûr.
Donc, la voiture comme emblème, enfin, on va dire depuis Ford et les autres. Aujourd'hui, on voit d'ailleurs la ville de Détroit qui est sinistrée. Et puis, alors, vous avez un couplet très intéressant sur le droit des 4x4 à la nature. Vous dites qu'il y a deux sortes d'amoureux des grands espaces aux États-Unis, des amoureux des grands espaces, des balades, des animaux sauvages, qui divergent évidemment sur la notion de protection. Vous avez les uns qui veulent garantir la nature contre les agressions de l'homme et les autres qui veulent sauver leur liberté d'y accéder.
Eh oui, c'est la liberté inaliénable du peuple à profiter des terres publiques. Alors ces interdictions, c'est cette fameuse antériorité sur les Américains ont créé les parcs nationaux, les premiers au monde, c'est remis en question par les gens qui disent « Mais au nom de quoi nous empêche-t-on d'aller voir de près ces terres ?» Et comment y aller à pied quand on est vieux, quand on est enfant? Eh bien, les 4x4, qu'est-ce que vous voulez? Et donc, il y a une vraie guerre de tranchées entre les gardes des parcs qui essayent de préserver ce qui est préservable encore. Mais ils ne peuvent pas faire le poids. C'est trop... Ils n'ont pas les moyens, d'autant que la plupart des États, notamment la Californie, qui a beaucoup de parcs nationaux, n'a plus les moyens de surveiller ces parcs. Ça, c'est encore un effet secondaire de la crise dont on ne parle pas beaucoup. J'en parle à peine dans le livre. Beaucoup disent... C'est pas juste, l'Amérique c'est la liberté, nous voulons aller voir ces terres et aller les voir détruire. Ah bon, détruire, mais on va les voir. Voilà.
Pour rester dans le domaine des transports, Hélène Krier-Villesner, parlons aussi des transports ferroviaires. Il y a des lignes qui sont quand même extrêmement antiques. Des Français peuvent se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de TGV? Les États-Unis se sont construits aussi grâce au transport ferroviaire, donc qui cheminait en allant vers l'ouest, donc c'est la fameuse conquête de l'ouest. Et pourtant, il y a un réseau qui est assez apocalyptique.
C'est vieux, c'est agréable, mais c'est lent. Même sur la côte est, entre Washington et New York, où les trains sont supposés aller très vite, en fait, ils ont beaucoup de retard souvent parce que le réseau ferré n'est pas à la hauteur, parce qu'il n'y a jamais eu l'argent pour rendre ça plus moderne. Ou pour
accroître. C'est un réseau qui est quasiment privatisé, hein, me semble-t-il.
Il est complètement privatisé. D'accord. Mais c'est vrai que l'État, non pas subventionne et aide un peu. Enfin, je crois qu'il y a un petit peu d'argent public, mais un petit peu. C'est rien comparé à la SNCF. Mais ça a été complètement saboté, en fait. Tous les transports publics dans les grandes villes et puis le développement, la modernisation du réseau ferré a été saboté par les grands constructeurs de voitures dans les années 70, et puis par les compagnies aériennes qui voulaient se développer. Donc ça a été saboté. C'est maintenant saboté en plus par les Républicains, la droite, qui ne veut pas entendre parler de dépenser de l'argent public pour aider un réseau ferroviaire, en dépit du fait que Obama avait annoncé, quand il est arrivé aux affaires en 2009, qu'il allait que l'État fédéral allait aider à développer un réseau ferré à grande vitesse, digne de l'Europe tout de même, enfin digne d'Amérique pour ressembler à l'Europe. Et en fait, de plus en plus de gens disent, enfin des républicains, les mouvements des Tea Party, partent du principe que le train, c'est socialiste. C'est même honteux de prendre le train, c'est quasiment assimilé à du communisme européen, parce que c'est contredire l'idée américaine qui veut qu'on soit libre, indépendant, dans sa voiture et qu'on fasse ce qu'on veut. Mais il y a quand même des gens qui veulent le développer. Tous les Américains ne sont pas contre le train, mais c'est une bataille d'influence de lobby.
Le fret ferroviaire est ultra rentable en ce qui concerne donc effectivement le transport des marchandises. Ça marche bien.
Oui, contrairement à l'Europe, le réseau ferré américain, c'est exactement l'inverse. Oui. Il est très très lent, mais c'est vrai que vu la taille du continent, c'est un continent, les États-Unis, ça se transporte beaucoup en voiture. Et Dieu merci, en train. Dieu merci, parce que quand on est sur l'autoroute, il y a déjà des millions de camions. Donc on ne sait pas ce que ça serait s'il n'y avait pas ce fret.
Et puis la tonne de bananes, de toute façon, on ne va pas se plaindre s'il y a 6 heures de retard. Voilà. Donc, tandis que le passager, peut-être, sera un peu plus exigeant. On va passer donc à un autre domaine, qui est le domaine vraiment tout à fait... c'est toujours très contemporain ce que l'on fait, mais on va accélérer un peu le mouvement et se retrouver dans les 10 dernières années. Et il y a eu un choc très intéressant. Souvenez-vous, c'était donc Al Gore et c'était La vérité qui dérange.
I'm Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. This is Mount Kilimanjaro. 30 years ago and last year, within the decade, there will be no more.
Donc là, Al Gore nous parle du Kilimanjaro, même si d'ailleurs, en fait, en ce qui concerne le Kilimanjaro, ça s'est avéré un petit peu faux, mais bon, ça a été un véritable choc. C'est-à-dire que chez nous, ce film est arrivé, Une vérité qui dérange, où on voyait donc Al Gore grimper sur son escalier mécanique pour suivre donc la courbe du réchauffement climatique depuis l'ère industrielle. Donc il y a eu, on est en 2006 avec Al Gore, mais si on reprend depuis, on va dire 2001, là il y a quand même effectivement le 11 septembre aussi qui est un choc et qui a un rapport aussi indirectement avec l'environnement.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que sous les années George Bush, les premières années George Bush, moi je suis arrivée juste 2 ou 3 mois avant qu'il soit élu président des États-Unis. La première année de George Bush a été marquée par le 11 septembre et ça a anesthésié totalement l'Amérique. Il n'était même pas question de mettre en avant en thème principal des États-Unis la lutte contre l'effet de serre, etc. Là, en plus, tout ça, c'était très anti-américain, selon les néoconservateurs et les gens qui étaient autour de George Bush. Et puis, il s'est passé quelque chose en fin août 2005, ça a été cet ouragan Katrina, qui a dévasté la Nouvelle-Orléans, qui a montré aux yeux de toute l'Amérique à quel point les injustices sociales étaient criantes. Et puis juste un mois après, il y a eu un autre ouragan catastrophique, Rita, qui t'appelle au même endroit. Et ces deux ouragans-là ont déclenché un débat qui était resté sous le boisseau pendant les années précédentes. Les grands médias se sont mis à parler des changements climatiques.
Tremblement de terre psychologique.
Vraiment. Et alors, dans la foulée, Al Gore est arrivé avec son film, qui du coup a eu un effet. Mm-hmm. Et puis c'était Al Gore. Al Gore, dit dans la bande-annonce qu'on vient d'entendre, qui se présente comme étant l'ex-futur président des États-Unis. Oui. Donc c'est très drôle, et c'est plus drôle en américain d'ailleurs. Mais donc il fait ce film qui a un écho pour le coup considérable, parce qu'il y avait eu le débat grâce aux ouragans, disant il va y avoir de plus en plus d'ouragans parce que nous, aux États-Unis, on n'a pas pris la mesure de l'effet de serre, etc. Et ça a été une espèce d'électrochoc et ça a duré 2 ans, jusqu'à, en gros, les débuts de la crise, l'élection d'Obama. Moi, j'en croyais pas mes yeux, je voyais les choses changer aux États-Unis autour de moi. Je dis pas que absolument tout le monde devenait écologiste, certainement pas, mais il y avait une certaine aptitude de tout le monde à dire « Ah oui, on consomme peut-être trop d'essence ». C'est là que les voitures ont commencé à diminuer un petit peu, les grosses voitures à se vendre moins. L'essence aussi a augmenté, hein, en même temps. Et le bio, le bon, tout ça, tout le monde en parlait. L'histoire d'économie verte, ça commençait à passer dans les médias. Alors, c'était peut-être un petit peu de la mousse. N'empêche que les médias en parlaient, les grandes stars de Hollywood en parlaient. Al Gore était là, la superstar. Moi, je dis que c'est un Zorro vert à ce moment-là. Ça a duré 2 ans et pendant 2 ans, j'ai vraiment vu les choses évoluer. Encore une fois, pas les 350 millions d'habitants, mais la moitié faisait attention ou disait qu'il allait faire attention. Il y avait tout le temps des gens qui faisaient un petit peu d'efforts. Et puis évidemment, patatras, la crise est arrivée. Et là, les choses ont essayé de se réajuster comme elles pouvaient.
C'est-à-dire que tout ce qui peut produire du job, du travail, eh bien, on prenait. C'est-à-dire que même le pétrole offshore, malgré ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique, tant pis, on continue à avancer.
Le pétrole offshore, là, les gens réclament toujours des qu'on creuse en dépit du fait que ça risque d'impacter considérablement l'environnement. On l'a vu, tout le monde l'a vu en Louisiane l'année dernière. Mais même les Louisianais, ils ne veulent absolument pas arrêter ce que leur apporte le pétrole en job et en taxation. Mais même les gaz de schiste. Mais en même temps, on comprend un pays qui a 10% de chômeurs, ils veulent des emplois. Mais j'arrive pas bien à comprendre, moi, comment se fait-il qu'en France, avec les mêmes effets, le même chômage, la même crise, les gens ont une attitude tellement différente par rapport à ces questions. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'épate toujours, ça.
D'accord. Et donc là, on voit évoluer donc actuellement très très vite les mentalités. Il y a un truc qui est très révélateur aussi, c'est des tours opérateurs qui, du côté de Los Angeles et ailleurs, emmènent les gens en bus pour voir un peu les films catastrophes, mais grandeur nature sur le terrain, sur la nature.
Alors ça, c'est un petit peu anecdotique, mais ça m'avait tellement frappé quand j'avais vu ces annonces de... Alors c'est pas des tours opérateurs officiels, ouais. C'est un peu des tours opérateurs de la contre-culture écologiste, mais ça a pas mal marché pendant un été, il y a quelques années, mais ça continue. Hein. Effectivement, les endroits les plus pollués, les plus détruits par l'industrie ou par l'urbanisme, où vivent les Noirs pauvres, les Latinos pauvres, ou bien, des gens qui ont été détruits, dont l'environnement a été détruit. Donc, il y a des gens qui organisent des tours, en fait, oui, pour aller voir ça de visu. Et en fait, c'est pas facile. On ne peut pas juste appeler le Club Med et dire « on voudrait faire un tour ». Mais ça existe, ça montre les choses et c'est la force de l'exemple. Quand on voit, on comprend.
Et on voit des montagnes qui sont rabotées, des montagnes rabotées parce qu'il y a eu une exploitation minière donc extrêmement intense.
Il y a toujours. On continue à faire sauter les montagnes de Virginie occidentale parce que c'est moins cher pour extraire le pétrole que de creuser des trous et d'ailleurs d'avoir des mineurs qui laissent leur peau d'ailleurs. Hein. Mais d'ailleurs, je voudrais signaler que c'est le thème principal du dernier livre de cet écrivain américain génial, Jonathan Franzen, Freedom. C'est extraordinaire, il raconte ça très très bien. Et bon, évidemment, mon livre, c'est pas de la littérature comme Franzen, mais en fait, on parle de la même chose.
Non, non, mais complètement. Et donc, c'est lui, je suis en train de rechercher donc la page là pour faire donc le parallèle entre notre vision à nous. Non, pardonnez-moi, ça c'est Jonathan Gainer, hein, donc qui est professeur de droit de l'environnement et qui explique comment nous, on peut être frappé lorsqu'on arrive aux États-Unis par ce qui se passe, et aussi les Américains vont être frappés absolument par autre chose. On est frappé par les différences culturelles vis-à-vis des risques. Les Européens arrivant aux États-Unis sont choqués, par exemple, d'y trouver donc des aliments génétiquement modifiés, donc des grosses voitures, on en a parlé, de l'essence bon marché, des émissions colossales de gaz à effet de serre, un filet de sécurité sociale qui est réduit pratiquement à néant, une obésité galopante. Et les Américains qui débarquent en Europe sont scandalisés par la vitesse extrême sur les autoroutes, sur le trafic sauvage dans les centres urbains, par l'amiante qui n'en finit pas d'être ôtée des bâtiments publics, même par les tourniquets pour enfants dans les parcs, par les quais sans protection des cours d'eau, etc. Quoi. Donc c'est intéressant parce que ça change complètement on change totalement de lunettes quoi, avec ça. Donc,
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand on débarque aux États-Unis, et moi ça m'est arrivé aussi quand je suis arrivée en 2000, les premières années, je racontais dans mes articles pour les médias français tout ce qui me choquait, tout ce dont on vient de parler. Et c'est vrai que progressivement, j'ai apprivoisé le pays, j'ai compris. J'ai compris que, comment ça fonctionnait, ce qu'ils avaient dans la tête. J'ai compris aussi que les Américains étaient désespérément optimistes. C'est-à-dire, eux, ils ne vont pas dire « Mon Dieu, la planète se détruit ». Eux, ils vont dire « Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la planète ?» Enfin, c'est des choses comme ça. Et donc, je me suis rendu compte que beaucoup de choses étaient faites sur place par les scientifiques là-bas sont extraordinaires. Il y a dans les laboratoires de recherche, et c'est encouragé par une société qui a confiance dans sa science. Le problème n'est pas résolu pour autant, parce que les scientifiques peuvent toujours trouver des choses si elles ne sont pas mises en application. Mais tout de même, là-bas, globalement, la science, les scientifiques sont admirés. Et ils ont quand même une force de frappe extraordinaire. Et par exemple, le problème des nanotechnologies, qui ici épouvante absolument tout le monde. Mm-hmm. Là-bas, ça épouvante pas grand monde, parce que c'est comme s'ils avaient un peu confiance dans le fait qu'on va trouver des solutions.
Mais est-ce qu'ils ont eu des vrais débats publics ou pas sur ces thèmes ?
Alors, vous savez, c'est intéressant parce que il y a justement...
Parce que chez nous, on a quand même un peu des illusions, on en parle, mais enfin, faut pas
exagérer.
Oui,
mais justement, il y a
on n'est pas de citoyen dans le coup, quand même.
Il y a une institution parlementaire française, du Parlement français, qui est moitié Sénat, moitié Chambre des députés, qui s'appelle l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et il y a 3 semaines, je vois débarquer dans l'université où travaille mon mari, je vois débarquer 2 députés français qui enquêtent aux États-Unis en disant « Mais pourquoi les États-Unis ont moins peur des risques que les Français ?» Ils sont en train de préparer un rapport là-dessus. Donc, eux, ils me disent « Mais... nous, ce qu'on voit, c'est que les Américains, ils n'ont pas peur, a priori, ils se lancent. Et il n'y a pas un débat public comme nous, on en a avec la commission du débat public, qui organise des grands débats. Non, eux, c'est plutôt, ils font remonter l'information par Internet, c'est une consultation générale et permanente des citoyens. Alors, l'avantage, c'est pas eux qui le disent, ça c'est moi, c'est que ça évite qu'on envoie des tomates aux scientifiques, comme ça s'est passé en France avec le débat sur les nanotechnologies. Donc, c'est plus soft, c'est moins formel. Mais apparemment, ça se diffuse pas si mal, quand même, l'information. En revanche, les Américains n'ont peur ni de manger des OGM, ni d'avoir des nanotechnologies absolument partout, mais ils font quand même relativement confiance aux scientifiques pour chercher les avantages et les inconvénients. Et de fait, les scientifiques américains travaillent vraiment là-dessus et sortent des résultats.
On poursuit donc ce voyage aux États-Unis avec vous, Hélène Krievi-Esner, et on va s'offrir Salatio.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
So, your face and I try to make your face and I try to make you warm, cause you always got what it takes to act like you're some kind of hard ass clown, but I know better than that. I know you're way too long, know you way too long. See, I know about your background, that it wasn't easy, I know for sure, but that's no reason to brag, it's in the past. So don't let it go and just be who you are now and who you're supposed to be.
Marcel Lassiou sur France Inter, choisi par Jean-Baptiste Audibert. Nous allons poursuivre ce voyage. Bon, le petit détour en Chine, on ne le fera peut-être pas cette semaine parce que j'ai enregistré en fait ce matin Éric Meyer. Mais ce qu'il nous a dit, non pas intemporel, mais on va pouvoir donc vous le faire écouter un petit peu plus tard. Parce que là, évidemment, c'est passionnant. Et donc, on continue ce voyage avec vous, Hélène Criée-Villesnay. On a encore des choses à se raconter, surtout dans la période donc, actuelle. Donc là, on est dans la crise. Donc, on a bien compris que tout ceci passait maintenant par perte et profit en ce qui concerne l'environnement. Je vois un signe aussi intéressant, parce que vous parlez vraiment du quotidien des gens, c'est le troc qui est en train de s'opérer. Alors, ce n'est pas forcément je te troque un objet contre un autre. Comment ça se passe?
En fait, ça s'apparente davantage au mouvement qu'on a connu en France dans les années 90 et qui se développe actuellement sous d'autres formes, je pense, en France, mais je n'ai pas bien suivi. C'était les selles. Les échanges.
Les systèmes d'échanges locaux.
Voilà. Eh bien, c'est un peu la même chose, mais alors la puissance américaine, c'est des gens qui. Des entreprises échangent services contre autres services avec une autre entreprise.
Je mets 3 consultants de mon cabinet à votre disposition pour vous assister dans votre étude de marché, mais de votre côté, vous renouvelez l'équipement informatique de ma société et vous me fournissez une nouvelle photocopieuse couleur.
Voilà, il faut vraiment être aux États-Unis pour voir un truc comme ça. Et ça a été pris en charge par certaines banques. Certaines banques ont mis des services en ligne ou avec des conseillers pour conseiller les gens, y compris au niveau des impôts et tout, parce qu'il n'est pas question que les taxations échappent à ça, sinon ça ne serait pas accepté par le fisc. Mais moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, a priori, ce n'est pas écolo. Enfin, je veux dire, ce n'est pas de l'underground, ce n'est pas de la contre-culture. Mais justement, le fait que ce soit totalement intégré dans la vie économique, je trouve ça... Alors, ce n'est pas partout, hein, mais il y a de plus en plus d'endroits. Enfin, c'est ici et là, dans les journaux locaux, on voit régulièrement des papiers là-dessus.
On se doute bien que les États-Unis ne vont pas poursuivre une croisade contre le réchauffement climatique. Ça serait, ils n'ont pas signé les accords de Kyoto, ils ne les signeront pas de toute façon. C'est parce qu'il faut peut-être pas attendre grand-chose effectivement de la prochaine réunion de Durban, mais vous l'avez dit, les courants religieux sont profondément anti-environnementalistes. Hein. On le disait, le réchauffement climatique n'est pas du tout inscrit dans la Bible. Dieu a donné la possibilité à l'homme de rouler en voiture, donc je roule en voiture. Et pour eux, la protection de l'environnement est une menace sur le mode de vie. On assiste quand même aussi à de plus en plus de remontée en puissance de climato-sceptiques. C'est-à-dire que la vague de Al Gore, bon, l'air descendu.
Elle semble être descendu, c'est plus trop à la mode dans les médias. Maintenant, les médias qui veulent toujours garder ce thème, si vous voulez, maintenant, ils sont plutôt défensifs. Moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé en France depuis 2 ans, avec Allègre et Vincent Courtillot. Sauf que ici, c'est basé sur de la science ou de la pseudo-science ou des arguments scientifiques, alors qu'aux États-Unis, ces courants anti-climatiques, si on peut dire, sont basés sur effectivement de la morale, de la spiritualité. J'ai du mal à saisir quel est le problème, mais en fait, derrière, c'est les lobbies industriels, les lobbies charbon, pétrolier, gazier, qui alimentent ça, qui alimentent en fausses études pour préserver l'économie américaine telle qu'elle est. Vraiment, il y a une interaction entre les anti-sciences en général et les anti-climat et ces lobbies. Et la droite religieuse extrême manipule tout ça très très bien. Parce que les arguments scientifiques ne passent pas forcément auprès du grand public américain qui n'est pas toujours très éduqué. Donc on fait passer ça avec autre chose.
Et l'Agence pour la protection de l'environnement est quand même pas mal pilonnée donc, actuellement par les républicains.
Ah ben, ils n'ont qu'une seule idée en tête. Et Michel Bachmann des Tea Party, Sarah Palin et même Rick Perry, vous savez le gouverneur du Texas qui est candidat à la candidature présidentielle. Ces gens-là qui sont vraiment de l'extrême droite, enfin on ne peut pas dire extrême droite, de la droite extrême américaine, ils ont dit que quand ils seraient élus, ils allaient, pour reprendre l'expression de Michel Bachmann, fermer les lumières, c'est-à-dire fermer l'agence, qu'il n'y aurait plus de ministère de l'Environnement, en quelque sorte. Alors, ils n'arrêtent pas de vouloir faire passer des projets de loi qui enlèvent les prérogatives de l'agence pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, notamment. Mais
les régulations sont tueuses d'emploi, quoi, pour eux.
Les régulations sont tueuses d'emploi et sont anti-américaines parce qu'elles empêchent la libre entreprise.
Et ça relève vraiment aussi... je mets ça un petit peu en parallèle par rapport à la France, très modestement, mais quand même, il y a 2 amendements là, qui viennent de passer mardi 11 à l'Assemblée l'Assemblée nationale, signé Jean-Luc Warsmann, donc député UMP des Ardennes. Premier amendement qui introduit une différenciation entre les entreprises cotées ou non et qui allège les obligations portant sur les pratiques en matière de responsabilité sociale et environnementale. C'est-à-dire que là aussi, bon, on est de toute façon dans le détricotage du Grenelle de l'environnement, ça, il n'y a rien de nouveau malheureusement, mais donc on en est là. Et donc on vous dit qu'aujourd'hui, avec la crise, ça c'est Alain Joyandet donc, qui le dit, dans les circonstances actuelles, doit-on ajouter à nos entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, des complexités supplémentaires?
Donc, voilà, oui, c'est effectivement le même argument des deux côtés de l'Atlantique, bien entendu. Et Obama a eu beaucoup de mal à s'en sortir avec ça. Il a effectivement baissé les bras récemment, il y a un mois et demi, deux mois, en disant, bon, d'accord, je renonce à demander à l'EPA, à l'Agence pour l'environnement, de réguler les émissions des gaz à effet de serre d'entreprises, parce que ça risque de grever le budget, donc on verra ça l'année prochaine, donc après les élections. C'est quand même baisser les bras, mais d'un autre côté, sa base politique ne le suit pas, parce que ne le suivait pas en l'aidant, ne l'aidait pas, parce que plein d'élus démocrates sont des élus des États pétroliers, gaziers, ils savent que ces députés, ces représentants, ces sénateurs savent qu'ils ne vont pas être réélus.
Donc, et est-ce que la société américaine, malgré tout, reconsidère ses valeurs aujourd'hui?
Je vais vous dire quelque chose. C'est peut-être anecdotique, mais je vous assure, quand vous y vivez, c'est drôlement important. La nourriture, les choses, les valeurs américaines en matière de nourriture sont en train d'évoluer à la vitesse grand V. Alors, je ne dis pas que tout le monde, maintenant, se met à manger bio, à manger bon, à faire la cuisine.
D'autant que vous l'avez noté dans votre ouvrage, laissez tomber le bio, parce qu'il faut maintenant rechercher les productions locales. Enfin, c'est pas vous qui le dites, mais ça a fait fureur.
Hein, ça a fait fureur il y a deux ans. Bon, ouais. On en est toujours là. Mais on en est toujours... Ce débat court toujours. Mais il y a de plus en plus de marchés fermiers. Nous, on dit des marchés. Eux, ils disent des marchés fermiers, parce que ce sont des marchés qui sont alimentés localement par les producteurs. Mais vraiment, je vous assure, les Américains apprennent à manger bien, s'emballent pour des bonnes choses, ils recommencent à faire la cuisine correctement. Il y a 10 ans, c'était impossible de trouver plus d'un bon restaurant dans une ville moyenne. Et maintenant, il y en a de plus en plus. Et en plus, maintenant, ils disent c'est produit localement, dans telle ferme et tout. On se croirait presque en Bretagne, par exemple, ou dans le sud-ouest.
Annie Breton, vous voyez, donc c'est à peu près la même chose. Donc dans ce que vous voyez évoluer de manière positive, est-ce que le travail des associations aussi est important? Est-ce qu'on continue donc à essayer d'avoir un contre-pouvoir dans ce domaine?
Il est colossal, le travail des associations. Mais les associations américaines ont toujours eu l'habitude de travailler en compromis, en compromission, passer des compromis politiques.
Compromis, peut-être pas compromission.
Oui, enfin,
c'est
bon.
Peut-être les deux.
Oui, c'est vrai qu'en anglais, c'est un peu le même mot. Hein.
Voilà, c'est pour ça.
Excusez-moi, mon français, là, se baisse.
Vous en veux pas. Moment.
Mais ils travaillent beaucoup avec les politiques. Et je te donne ça, et tu vas me donner ça. Et en échange, ils ont des avocats, ils sont extrêmement pointus au niveau législatif. Les associations sont comme ça. Mais les militants américains ne fonctionnent pas de la même façon que les militants français au niveau de l'environnement. Mais ça, c'est une autre émission, je ne peux pas vous raconter tout maintenant.
Mais c'est formidable. Hélène Krievi-Esner, American Écolo, Les Américains et l'environnement, chronique du meilleur et du pire. Donc on a picoré dans votre ouvrage, mais quand même, on a essayé de garder la structure générale chez Delachaux et Niesley. Alors, je tiens à signaler que vous serez, vous, ce week-end chez nos amis du 9e Festival du Livre de la Presse d'Écologie qui se trouve à Paris, dans le 20e arrondissement. C'est à la Bellevilloise. Alors, il n'y aura pas que vous, bien naturellement. Ça va être sur le thème de l'appel aux forêts. Et puis, mardi 18 à 19h, vous serez au musée du Montparnasse. C'est donc avenue du Maine à Paris, toujours. Ben oui, amis en province et en région, je n'y peux rien, c'est comme ça. Mais Hélène, peut-être se déplacera. Et là, vous présenterez donc aussi votre ouvrage, donc le 18, Musée du Montparnasse. Et ce week-end, eh bien, vous serez donc à la Bellevilloise. Un grand merci à vous, Hélène, et puis à très bientôt pour d'autres chroniques dans notre émission, on est bien d'accord?
Absolument, au revoir Denis, merci.
Allez, ça marche, pub.